Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Sabine Tinelli est éducatrice Montessori 6-12, maman, et accompagne aussi des parents pour qu'ils comprennent l'éducation Montessori. Après s'être présentée, Sabine nous a parlé de l'observation. Voici deux phrases clés. La première étape est de s'observer soi-même. Et la deuxième, sans observation, il n'y a pas de pédagogie Montessori. L'expérience de Sabine et sa passion se ressentent dans nos échanges. Quel bonheur de l'écouter. Je laisse place à ma conversation avec Sabine Tinelli. Bonjour Sabine, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Sabine.
Je suis ravie de vous accueillir pour parler aujourd'hui de l'observation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours et quel est votre lien avec Montessori? Comment ça a commencé?
Oui, alors c'est une longue histoire. En fait, j'ai toujours été passionnée par les enfants. Et depuis que j'ai 12 ans, je voulais être maîtresse d'école, comme beaucoup de petites filles. Et puis, ma vie a fait que je n'y suis arrivée que très tardivement, pour plein de raisons. Et en fait, quand j'ai eu mes enfants, ça a été vraiment de nouveau un appel énorme. Et quand ils ont commencé à grandir, j'avais cette passion pour les observer. Je me rendais compte que c'était vraiment magique, hein, de l'enfant qui dort, où on voit ses cils pousser pendant leur sommeil, à son sourire simplement quand son papa arrive, ou des éclats de rire en entendant simplement un morceau de musique. Et en fait, j'ai repris des notes que j'avais il y a très longtemps, et en voyant grandir mes enfants, je me rendais compte qu'ils avaient besoin de beaucoup toucher. Donc, j'éduquais mes enfants de manière un peu atypique. Donc, je ne me suis pas fait que des amis parmi mes amis ou ma famille, puisque j'ai commencé à mettre les jouets dans le salon. Je leur apprenais très vite à faire les choses par eux-mêmes. Et puis, je leur expliquais beaucoup de choses et je répondais à leurs questions. Et je me sentais un peu seule, en fait. Et j'avais pris des notes en me disant, mais les enfants, en fait, ils apprennent par l'essence et puis par le jeu. Et de fil en aiguille, j'étais dans une... Moi, au départ, j'ai fait un parcours de management. J'ai fait des études de management. Puis, j'ai travaillé dans une grande entreprise parisienne. Et j'en pouvais plus de ce rythme. C'était vraiment pas à ma place. Et donc, j'ai demandé à faire une autre formation. Et j'allais dans une ludothèque en tant que bénévole. Et la ludothécaire m'a conseillé de suivre une formation qui était un DESS en sciences du jeu. Alors là, j'ai foncé. Et c'est là qu'en fait, j'ai rencontré les premiers écrits de Maria Montessori. Et je me suis dit, en fait, je ne suis pas toute seule, c'est génial. Et j'ai commencé à être rassurée, en fait, à lire Maria Montessori et à me dire, il n'y a rien à inventer, tout est là. Mais il m'a fallu encore beaucoup d'années avant de me rendre compte qu'il y avait des formations. C'est lors d'un parcours assez rigolo. J'étais en vacances. Je partais en vacances dans les Alpes et une amie m'avait mis dans mon, avant de partir, un livre qui était le livre de Charlotte Poussin sur la pédagogie Montessori expliquée aux parents. Donc j'ai eu l'intention de le lire. Et lors d'un café, le matin, au petit déjeuner, je discute avec un monsieur d'un certain âge et pendant la conversation, il me dit « Mais je suis le père de Charlotte Poussin !» Et du coup, j'ai dit « Mais c'est incroyable cette histoire, j'ai son livre dans mon sac !» Et de fil en aiguille, voilà, j'ai rencontré Charlotte Poussin qui m'a ouvert les premières portes en fait, de son école à l'époque et puis qui m'a dit mais il faut vraiment que tu te formes. Et donc je suis arrivée à la formation 6-12 ans, mais j'ai voulu commencer par une formation d'assistante pour voir ce que c'était. Et en parallèle de cela, toute ma vie, en fait, dans l'accompagnement de l'éducation de mes enfants, j'ai toujours fait des bénévolats, j'ai toujours accompagné des groupes, que ce soit des jeunes enfants, des enfants en difficulté scolaire, des adolescents plus tard. Et donc, c'était vraiment ça qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, je me sens très, très chanceuse, en fait, d'être arrivée dans le milieu Montessori qui correspond tout à fait à ce que, en fait, je pourrais dire, je ressentais par bon sens. Pour moi, c'est beaucoup de bon sens et c'était assez intuitif chez moi. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette intuition naturelle, en fait.
Et ensuite, vous vous êtes formée pour faire la formation complète à EMI 612.
Exactement. Alors, c'est aussi assez amusant parce qu'en fait, Charlotte Poussin m'avait embauchée dans son école et en fait, elle m'avait dit, je pense qu'il faut vraiment que tu te formes en 6-12 ans. Et à ce moment-là, la première formation du CFMF, je ne sais pas si vous connaissez, le Centre de formation Montessori Francophonie, commençait la formation 6-12 ans à Archamp. Et dans cette même... en parallèle, mon mari m'annonce qu'en fait, on déménage en Suisse. Donc du coup, il y a tout qui s'est mélangé dans ma tête. Et voilà, donc nous avons déménagé. La formation, j'étais dans les cartons entre le déménagement et la formation a été repoussée d'une année. Donc ça a été assez épique, hein, mon parcours. Et puis, c'est en 2013 qu'a commencé cette formation donc, du CFMF, qui a été pour moi à la fois un aboutissement et un départ. Dans le sens où ensuite j'ai eu de très très riches expériences, très vite je me suis retrouvée dans mes classes avec un grand nombre d'enfants. Ça m'a appris à nager, hein, je peux vous dire. J'ai pas eu le temps d'être sur le plongeoir à hésiter. Et de fil en aiguille, en parallèle, j'ai aussi créé une association pour les parents, parce que ce qui me touchait le plus à cœur quand je travaillais en tant qu'éducatrice, et je le fais encore aujourd'hui, c'est d'expliquer aux parents ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on a leurs enfants toute la journée, et s'ils ne comprennent pas ce que nous faisons avec leurs enfants, ben c'est une source d'anxiété. Moi-même, n'ayant pas eu l'occasion de mettre mes enfants dans des écoles Montessori, parce qu'ils étaient déjà grands quand j'ai découvert tout cela, je comprenais tout à fait que, oui, j'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre, enfin maintenant je suis en Suisse alors que je suis française, et que la scolarité et la médecine sont deux sources d'anxiété extrême pour les parents. Donc je me suis très vite mise en fait à la disposition des parents afin de leur expliquer au mieux, en tout cas je tente de le faire et je continue à le faire, et on a créé une association il y a quelques années, qui s'est dédiée justement à créer des ateliers pour les parents. Donc maintenant, elle s'est arrêtée puisque le projet va prendre forme sous une forme d'école dans un coin de la Suisse. Mais pour moi, c'était très important que les parents qui viennent à Montessori sachent ce qu'on y fait. Et j'ai beaucoup de bonheur à partager justement comment on observe un enfant dans son environnement familial finalement. Et qu'est-ce que ça peut apporter.
Oui. C'est vrai que de plus en plus, j'avais tendance à dire la pédagogie Montessori, et de plus en plus, maintenant, j'ai envie de dire l'éducation Montessori, parce que pédagogie, ça sous-entend école, alors que éducation Montessori, il n'y a plus cette frontière entre la maison et l'école.
Tout à fait, pour moi, pédagogie est très réducteur finalement, parce que on associe cela à l'école, comme vous venez de le dire, et... En fait, ce que Marie Montessori nous propose est beaucoup plus large. Tout d'abord, ce serait une psychopédagogie, parce que nous travaillons beaucoup sur la psychologie de l'enfant. Et ça peut aller même jusqu'à une philosophie, puisque c'est une philosophie de vie, c'est une posture que l'on prend et que l'on choisit qui va au-delà de l'école. Et d'ailleurs, Marie Montessori parle d'éducation à la paix, hein, si elle va très très loin dans son programme. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien.
Et inclure les parents, je trouve ça vraiment indispensable. Donc c'est chouette que vous l'ayez fait pendant plusieurs années.
Alors en fait, je continue parce qu'aujourd'hui, je me suis installée en tant que consultante en 2020, pendant le confinement. Une drôle d'idée. Mais voilà, donc du coup, là, j'ai des demandes pour continuer à faire ces ateliers de parents qui sont passionnants. Et j'accompagne aussi des éducateurs sur le terrain. Et j'ai aussi toujours un pied dans une école parce que je ne veux pas quitter les enfants. Mais en même temps, je me suis rendu compte que d'accompagner les enfants, c'est vraiment ma passion. Mais quand j'ai commencé parce que je suis partenaire avec le centre de formation Montessori Francophonie aujourd'hui aussi, et j'ai eu l'occasion d'accompagner les adultes pendant leurs examens ou sur le terrain en tant que coach. Et je me rends compte qu'en fait, j'arrive aussi à accompagner les adultes. Et je me dis, mais en fait, si tu accompagnes les adultes, tu touches encore plus d'enfants. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui pour vraiment cette activité de consultante, où je me dis, mais voilà, quand je vais vers un adulte, je sais que ça va peut-être lui permettre, en tout cas, d'apporter encore plus de choses aux enfants, peut-être grâce à mon expérience. Parce que maintenant, ça fait 26 ans que je suis maman. depuis l'âge de 12 ans que je suis passionnée par l'enfant. Donc, ça commence à faire un petit paquet d'années.
C'est marrant que vous disiez ça aujourd'hui, parce qu'à midi, ma fille me disait « Mais maman, t'as qu'à être ministre de l'Éducation nationale pour toucher encore plus de monde, vous voyez ?»
Et voilà, pourquoi pas, je vous encourage. En vous êtes jeune, vous avez encore de la marge d'action.
Voilà. Alors, si vous, merci d'avoir partagé votre parcours, très très riche, et ça fait plaisir, de voir que les parcours de vie peuvent être vraiment différents d'une personne à l'autre. On entre tous dans l'éducation Montessori par des portes différentes. Donc voilà, je suis contente d'avoir entendu votre témoignage. Si vous voulez bien, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est l'observation. Alors, vous nous avez partagé le fait que vous, naturellement, vous observiez vos enfants, preniez des notes. Est-ce que ces notes, c'est quelque chose que vous avez fait pendant plusieurs années ou toute leur enfance?
Alors, j'ai fait pendant une partie, pour être honnête, parce qu'après, j'ai repris mes activités professionnelles qui étaient dans le management, donc je n'arrivais pas toujours à noter, mais dès que je pouvais, je notais. Et surtout, alors après, ce que j'ai gardé, c'est vraiment les notes de développement crucial. Vous voyez, le passage à la marche, les premiers mots, et puis après beaucoup d'expressions que j'ai gardées aussi. Et encore aujourd'hui, où j'ai mes enfants qui sont adolescents, je les observe et je regarde, parce qu'en fait, en les observant, je me rends compte que j'adapte ma posture vis-à-vis d'eux, et qu'en fait, en fonction de leur développement, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, et parfois, je fais des erreurs, bien sûr. Hein. Même, vous voyez, après 25 ans de maman, on fait toujours des erreurs. Simplement, ils savent vous le dire beaucoup plus facilement. Et là, si vous êtes à l'écoute, vous arrivez à vous dire « Ah oui, mince, j'ai pas agi correctement. » Donc, c'est une remise en question perpétuelle. Et je pense que l'observation, elle est vraiment indispensable à tout moment, en fait.
Et en classe, alors, enfin, en classe Si des enseignants du public nous écoutent ou des éducateurs Montessori nous écoutent, en classe, avec les enfants, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'y prendre, à quoi ça sert? J'avais lu que observer, c'était être comme un scientifique, et comme si on s'imagine qu'on rencontre les enfants pour la première fois et écrire de manière objective ce qu'on observe. Est-ce que cette phrase vous fait tilt? Est-ce qu'elle vous fait rebondir?
Oui, je dirais que si vous considérez qu'être un scientifique, c'est avoir la connaissance dans un domaine, et puis faire preuve de rigueur, d'exigence et d'objectivité, alors là, je dirais oui, c'est être un scientifique, en effet. Je dirais aussi que c'est un art. Pour moi, c'est aussi un art, l'observation, parce qu'en fait, c'est vraiment regrouper des moyens spécifiques au service d'une connaissance, avec des procédés précis. Ils vont nécessiter une pratique de plus en plus fine, de plus en plus affûtée. Alors moi, j'aime bien faire ce parallèle avec la musique, parce que j'ai eu l'habitude de faire de la musique quand j'étais enfant. Et donc, on vous donne des outils. Hein, vous allez commencer par apprendre le solfège, puis ensuite, vous allez apprendre le canevas des gammes, puis ensuite, vous allez naviguer dans le cycle des quintes. Pour les auditeurs qui sont musiciens, peut-être que ça leur parlera. Mais au départ, on va le faire de manière mécanique, c'est-à-dire qu'on va répéter, on va de mieux en mieux comprendre, et puis ensuite, on va pouvoir élaborer. Donc, j'aime bien ce qui fait que ça va devenir un art, parce qu'on va de plus en plus comprendre ce qu'il y a derrière ce canevas. Donc, j'aime bien, effectivement, cette idée scientifique, puisque Maria Montessori était elle-même médecin, anthropologue, et la manière dont elle a observé était certainement bien plus scientifique que moi, en tant que maman, dans mon petit coin avec mes enfants. Mais la pratique qui va être très difficile à mettre en place, hein, je ne vous cache pas, hein, en tant qu'éducateur, hein, dans les classes, Et pour les enseignants hein, qui sont dans le public, je dirais que c'est encore plus difficile pour eux. Peut-être qu'on y reviendra si vous le souhaitez. Mais la pratique mécanique, c'est de s'obliger à s'asseoir. Et ça, c'est déjà très difficile dans le monde actuel parce qu'en fait, même certains éducateurs qui auraient envie, parfois, ont du mal à le faire à cause du regard de leurs collègues ou de la direction parce que s'asseoir, c'est comme ne rien faire. Et c'est très mal vu dans notre société. Or, ça demande déjà beaucoup d'efforts personnels. S'asseoir, rester immobile, se retenir d'agir, hein, vraiment de rester dans une posture calme et puis prendre des notes. Et souvent, ce n'est pas très bien interprété. Donc, l'adulte qui veut vraiment observer, il va avoir besoin d'une force intérieure et une volonté pour pouvoir faire accepter cette activité. Ce qui est dommage, je trouve, mais je suis vraiment ravie que vous m'ayez interrogée sur ce sujet parce que j'ai essayé en fait, de passer des messages qui peuvent vraiment faciliter la vie quotidienne des éducateurs. Et là, je parle des éducateurs au sens large, que ce soit, comme je vous disais, hein, les parents, les éducateurs, les enseignants, même les gens qui sont... À tout moment, des infirmiers, tous les gens qui sont en contact des enfants spécifiquement, ça peut donner vraiment beaucoup de clés. La difficulté, ça va être de tomber dans les préjugés. Ça, c'est quelque chose qui va être très difficile, c'est d'apprendre à se faire attention à nos préjugés ou à nos premières impressions, à nos a priori, par rapport à tous les bagages que nous avons tous engrangés dans la vie. Donc, ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en pratique.
Et j'avais lu sur un blog, je crois, d'une éducatrice Montessori américaine, elle partageait son expérience sur l'observation et elle disait qu'elle observait les enfants chaque jour, quelques minutes, mais qu'elle préparait son environnement. Comme pour ne pas oublier et être sûre que ça ait lieu, elle préparait son environnement aussi en choisissant un joli cahier, un crayon avec lequel elle aime écrire, sa petite tasse de thé. Donc je pense que tout ça, c'était pour faire en sorte de ne pas oublier ce moment d'observation et de le rendre agréable, comme l'environnement préparé. Enfin, elle faisait ce parallèle. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça se passe comme ça dans la réalité ? Enfin, est-ce que ça peut se passer comme ça, même en France ?
Alors, je trouve que c'est une idée extraordinaire, en fait. C'est vraiment chouette de donner la place à l'observation à tout moment dans la classe. Alors, j'ai vu des classes, effectivement, où il y a un petit cocon pour pouvoir observer, qui est destiné à l'adulte, mais aussi à l'enfant. Et récemment, dans la classe que j'accompagne, en fait, on permet aux enfants d'observer les autres. Mais c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes, hein, d'observer. Ils adorent ça, d'ailleurs. Oh, tu sais, Paul, il a dit ci, Paul, il a dit ça. Donc, c'est extraordinaire. Et je trouve que, oui, se donner cette possibilité d'avoir à tout moment un espace agréable pour valoriser l'observation peut être une stratégie que j'encouragerais vraiment. C'est-à-dire une chaise bien placée. Là, dans la personne que vous décrivez, je crois qu'elle prend un joli stylo, un joli cahier, quelque chose qu'elle aime. Et puis, éventuellement, vous parlez d'un thé ou d'une boisson. C'est aussi important hein, de s'hydrater quand on parle avec les enfants. Donc, oui, je trouve que c'est une belle stratégie. Et peut-être ça peut nous rappeler que cette chaise est là. D'ailleurs, moi, l'une des premières années où j'étais là, il y a une observatrice qui est venue. Parce qu'en fait, on s'observe beaucoup en Montessori. Hein, je crois que vous savez, on invite des observateurs et ça nous fait vraiment grandir. Et elle m'avait dit, mais... il n'y a pas de chaise d'observation dans ton ambiance. Je peux vous dire que du jour où elle est partie, la chaise était là. Je me suis dit, mais elle a tellement raison. Et cette chaise vide, elle vous appelle, en fait. Elle vous rappelle, mais viens t'asseoir. Donc, je trouve que c'est très joli comme image. J'aime beaucoup ça.
Et observer, ça prend du temps. Est-ce que ça sous-entend aussi d'accepter de prendre ce temps-là ? Ne pas être tout le temps dans l'action, vous l'avez dit un petit peu au début, mais... voilà, s'obliger à s'arrêter et prendre ce temps.
Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des observations qui vont nécessiter du temps. Ça, c'est certain. Si on veut vraiment, avoir des observations fructueuses, qui ont un objectif bien défini, ce qu'on pourrait appeler des observations formelles, celles-ci, elles vont demander du temps et elles vont demander un effort pour être mises en place. Quand on crée un environnement Montessori, je ne vous cache pas qu'on est submergé par la quantité de choses qu'il faut faire. Et tout le matériel qu'il faut acheter, comment concevoir l'espace. Je ne vais pas refaire. Les gens qui nous écoutent savent très bien de quoi il s'agit. Et du coup, parfois, l'observation est un peu l'activité délaissée. Alors, beaucoup de fois, quand je viens dans les classes, je dis, est-ce que vous avez pensé à observer? Est-ce que vous avez implanté l'observation dans vos pratiques quotidiennes? Tu ne penses pas, on n'a pas le temps, c'est trop dur, il y a toujours 10 000 choses à faire. Et même des gens qui ont de l'expérience, hein, c'est vraiment pas facile. Mais en même temps, il y a des observations qui peuvent être faites très naturellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, alors, pour moi, c'est assez facile, mais j'entends que ce soit difficile pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que dès qu'un enfant arrive le matin, je vais le saluer. Alors, en ce moment, on ne serre pas la main, mais bon. Mais voilà, je vais regarder son regard, sa manière de se tenir. Parfois, il arrive, il a déjà la tête, vous voyez, un peu penchée, ou au contraire, il se tient bien droit. L'intonation qu'il va utiliser, est-ce qu'il va utiliser un langage verbal, corporel, tout ça, ça va être des petits indices qui vont déjà me permettre de savoir comment je peux entrer en lien avec cet enfant. Et je pense qu'en fait, la plupart des enseignants, la plupart des gens qui sont avec les enfants le font. Peut-être sans en prendre conscience, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont l'habitude d'entrer en relation avec les enfants. Donc, ils se rendent peut-être même pas compte qu'ils le font. Moi, au début, je ne m'en rendais pas compte. C'est quand j'ai lu Marie Montessori que je me suis dit, mais en fait, oui, j'observe, c'est drôle. Et en fait, on observe tous. Parce que si vous allez dans un nouvel environnement, vous partez en vacances, ben, la première chose que vous allez faire, vous allez observer. Vous arrivez dans un appartement, ben, vous allez regarder, tiens, dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? En fait, on observe naturellement. C'est un besoin naturel de l'être humain. Et donc, après, c'est le rendre, comme vous disiez, une activité scientifique et technique qui va être la partie la plus complexe. Allez-y.
Pardon. Vous faites la différence, là, entre les observations formelles et informelles, non? C'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire que les observations formelles, elles sont, assorties d'un objectif. Qu'est-ce qu'on va chercher à observer? Quel est le but précis de l'observation? Ce sont ces observations-là qui vont demander des techniques scientifiques. La première chose que ça va nous apporter, en fait, c'est de définir quel est le besoin de chaque individu dans un environnement. Si on parle de l'observation de l'enfant, mais bien sûr, on peut observer aussi autre chose. Mais ça va aussi nous amener à répondre à son besoin de manière appropriée. Parce que parfois, si on n'observe pas de manière assez fine, on peut apporter une réponse qui n'est pas adaptée. Et ensuite, le troisième point que ça va nous aider à faire, c'est à éliminer les obstacles au développement de l'enfant. En agissant donc sur l'environnement, en agissant dans notre comportement, dans notre interaction avec lui. Donc, c'est très important d'utiliser ces observations formelle de manière à adapter l'environnement à la périphérie de l'enfant. Maria Montessori nous dit bien qu'on ne va pas agir sur l'enfant directement, mais par la périphérie. Donc ça va être très riche d'observer. Et les premières choses que je fais quand je suis invitée dans un environnement pour observer, c'est d'observer comment l'environnement est construit. Donc je vais faire un petit croquis et je vais regarder si les espaces sont tous utilisés par les enfants ou si au contraire les enfants sont plutôt dans un espace que dans un autre. Ensuite, dans une classe 6-12 ans qui est celle dans laquelle j'ai le plus d'expérience, je vais regarder si tous les domaines sont bien utilisés. Est-ce que, puisqu'on fait l'éducation cosmique en 6-12 ans, donc avec tous les domaines qui s'imbriquent, c'est important que tous les enfants s'y retrouvent. Donc, l'enfant, même s'il n'est plus encore complètement dans l'esprit absorbant, il absorbe encore des choses. Et le fait qu'il passe à travers la classe et qu'il voit des leçons d'histoire, des leçons de géographie ou des enfants simplement qui travaillent spontanément dans les domaines, la musique, l'art, etc., ça va lui rappeler de manière indirecte qu'il peut aller vers ces domaines. Vous voyez la différence avec une classe où, en fait, on fait des mathématiques tous en même temps. Et là, l'enfant, du coup, il va pouvoir avoir à un moment donné, ah, bah, tiens, j'ai mon copain Paul, il fait des mathématiques, bah, j'ai envie de faire des mathématiques avec lui. Mais j'ai aussi mon copain Alex qui fait de l'art, et puis bah, après avoir travaillé avec Paul, j'irai peut-être faire de l'art avec Alex. Donc, on va observer pas seulement l'enfant, mais aussi l'environnement. Mais par contre, ce qui est très important, c'est avant de pouvoir devenir un observateur aguerri, la première étape, ça va être de s'observer soi-même. En fait, Maria Montessori, elle parle de l'observateur comme une personne qui a appris à se connaître. C'est vraiment, ça fait vraiment complètement partie de la posture de l'adulte. Et c'est une remise en question très importante, parce que comme je vous disais tout à l'heure, parfois on a des préjugés sur les enfants. On a des a priori. Une de mes expériences, la première année que j'ai pris une classe en charge, c'est d'avoir discuté avec les éducatrices de l'année précédente, qui voulaient absolument me passer le relais, puisqu'elles quittaient l'école. Donc elles avaient des enfants en 3-6 ans, puis qui montaient dans la classe 6-12 ans. Et puis elles m'ont fait leur retour sur les enfants. Et du coup, moi, quand j'ai vu ces enfants-là, ben, j'avais des idées préconçues sur ces enfants-là. Et en fait, quand ils sont arrivés dans ma classe, après 2 mois d'été, ce n'étaient plus du tout les mêmes enfants. Vous voyez, donc j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté de fonctionner de cette manière. Et quand une année commence, je laisse accueillir les enfants. Je me pose, j'essaye d'être le plus calme possible, le plus tranquille possible. Parce qu'évidemment, si vous arrivez un jour où vous avez de la colère en vous, ou vous êtes ému parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, ou vous n'êtes pas bien, mais je pense que votre observation, elle va être entachée par vos émotions. Donc, la première qualité de l'observateur, c'est de s'observer et de se dire, voilà, si je me mets en posture d'observation, c'est vraiment que je fais un travail sur moi et j'essaye le plus possible, mais c'est un processus, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, de travailler sur ce que je ressens et ce que me renvoie cet enfant. Et la plupart du temps, quand je suis appelée pour observer dans un environnement, si on m'appelle pour observer un enfant, c'est parce qu'un enfant met l'adulte en difficulté. Donc le travail, ça va être à la fois sur l'observation de l'enfant, mais aussi sur l'adulte. Savoir qu'est-ce que cet enfant renvoie à cet adulte dans ses émotions profondes. Et Angelina Stoll-Lillard, qui a écrit le livre, vous savez...
Montessori, une révolution soutenue par la science.
Voilà, exactement. Elle décrit très bien cela, que la formation à l'observation commence par une introspection, en fait. Elle dit que la formation d'un éducateur Montessori, elle commence par s'analyser soi-même, presque une psychanalyse, hein, elle va jusque-là, en disant qu'en fait, notre formation, c'est plus une formation proche d'une psychothérapie qu'une formation d'enseignant qui engrange des connaissances pour les transmettre.
D'accord. Et donc là, les observations formelles, c'est que quand l'éducateur va s'installer sur sa chaise, son tabouret, pour vraiment observer un enfant ou l'environnement. Et les observations informelles, c'est les, voilà, quand un enfant qui arrive, on fait attention à son... enfin, on prête attention à son attitude, ses mots. Et c'est bien ça la différence entre formel et informel?
Alors, à mon sens, oui. C'est-à-dire que les formelles, elles vont avoir un objectif précis, comme je vous disais. Donc aujourd'hui, je me pose pour observer le mouvement de Paul. Voilà. Donc, on va décrire son mouvement pendant un certain temps. Ou aujourd'hui, je vais observer la manière dont tel éducateur et tel enfant interagissent. Voilà. Là, il y a des objectifs précis, définis, qui vont nécessiter des notes. Ou aujourd'hui, je vais faire la courbe de concentration de tel et tel enfant. Voilà, ça, c'est ce que je vais appeler les observations formelles. Et les observations informelles, ce sont toutes les autres. Alors, celles que je vous ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire le ressenti que nous pouvons avoir d'un enfant quand il arrive. À partir du moment où, encore une fois, nous-mêmes, on se sent bien dans ces observations, et on est tranquille et pas énervé par l'enfant. Mais ça peut être aussi, voilà, simplement en vivant avec l'enfant. Vous savez, on déjeune avec les enfants en Montessori, donc ça peut être pendant le repas, au détour d'une conversation, sans avoir spécifiquement un objectif en tête, mais simplement l'interaction qu'on a avec lui, l'humeur qu'il a montrée, qu'est-ce qui l'a fait éclater de rire, qu'est-ce qui l'amuse, qu'est-ce qui l'intéresse, sans qu'il y ait des questions spécifiques pour cela. Vous voyez, l'enfant, il peut très bien arriver avec Là, cette année, nous, on a eu un engouement dans notre classe pour les Toupies Blay Blay. Voilà, bon, bah, on a vu ça et puis on s'est dit, tiens, c'est génial, il est passionné par les Toupies Blay Blay. Donc, on les a laissés, en fait, comment dirais-je, amener leur idée. Et en observant cela, ça a permis ensuite, dans l'environnement, d'accepter leur idée et de suivre leur intérêt et leur motivation et de faire une partie du curriculum autour de cela. Donc là, c'est vraiment sans poser la question directement à l'enfant. C'est ce qui va venir de lui, en fait. Je dirais. Oui. Ça peut être aussi en récréation, tout simplement. Mmh. Parfois, les enfants en récréation, ils s'approchent de nous, puis ils viennent discuter avec nous, puis ils nous racontent une chose. « Ah, oh, tu sais, ma petite sœur, hier... » Et là, vous avez des indices, en fait, sans les avoir cherchés.
Oui.
C'est ce que j'appellerais les observations informelles.
Et est-ce qu'un éducateur devrait avoir un temps d'observation formel chaque jour ?
J'aurais tendance à le conseiller, notamment pour les éducateurs qui n'ont pas encore pris l'habitude de le faire. Parce que comme je vous disais, je faisais le parallèle avec la musique. Au départ, le faire de façon mécanique va nous permettre de nous rendre compte de la richesse de ce moment. Et à chaque fois que j'interviens dans un environnement, je propose cette possibilité. Alors, c'est plus simple, évidemment, si on est deux dans une classe. L'éducateur qui est seul avec beaucoup d'enfants, peut-être qu'il aura du mal à le faire. Ça, je peux tout à fait le concevoir. Dans les classes où on a la chance d'être deux adultes, je pense que c'est vraiment, à mon sens, indispensable de s'obliger à s'asseoir et de le pratiquer régulièrement. C'est là qu'on va se rendre compte de la nécessité, de la richesse et de ce que ça nous apporte. Ça nous facilite en fait énormément le travail. Alors qu'au début, c'est un peu comme on a l'impression que ça va être difficile, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, vous voyez ce que je veux dire. Et les fois où j'ai pu encourager des éducateurs à se poser et à prendre des notes, après, ils se sont dit, mais c'est fou tout ce que je vois depuis cette chaise, vous voyez. Et en fait, en plus, ce que je vois, c'est qu'en fait, ils voient leur ambiance, leur environnement de manière beaucoup plus positive. Parce que finalement, ils vont regarder et ils vont se dire, mais en fait, il y a autant d'enfants qui sont concentrés. Alors que quand vous êtes dans l'action, vous focalisez sur ceux qui ne sont pas concentrés. Et du coup, vous vous dévalorisez aussi. Parce que du coup, vous ne voyez que ce qui ne va pas. Alors que le fait de se poser, d'être tranquille et d'observer réellement, ou par exemple un enfant, on peut le voir en mouvement, mais on se rend compte qu'en fait son mouvement, il est juste allé chercher un crayon, puis en fait il revient à son travail. Donc ce n'était pas un mouvement perturbateur, vous voyez, c'était un mouvement avec un objectif défini et qui n'était pas gênant. Mais si vous croisez la salle parce que vous êtes en train de régler un problème, puis qu'en plus vous voyez plusieurs enfants debout, peut-être que vous allez le vivre complètement différemment. Oui. Donc, votre ressenti va être transformé. Et les fois où les éducateurs arrivent vraiment à se poser, ils arrivent à vraiment avoir un retour beaucoup plus positif sur leur travail.
Et vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais enfin, vous avez commencé à en parler des jugements. J'imagine qu'il faut apprendre à faire la différence entre une observation et un jugement. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour illustrer ça ?
Alors, quand vous m'avez posé la question, je vous avoue, je suis allée dans le dictionnaire. Parce que ce mot jugement, en fait, ça fait des années que je l'entends, que je l'ai utilisé moi-même. Et puis, un jour, une personne très sage m'a dit, mais des jugements, on en fait tout le temps. Et c'est bon de ne pas confondre jugement et condamnation. Je me suis dit, ça c'est très intéressant. Et donc, je suis allée chercher. Observation, c'est vraiment quelque chose qui est une action de regarder, et que ce soit des êtres, des objets, des phénomènes, des événements, mais à des fins de les étudier, de les surveiller ou de tirer des conclusions. Et le jugement, c'est la faculté de l'esprit qui permet d'apprécier et de prendre des décisions. Donc en fait, c'est nécessaire, le jugement. Si je décide d'aller en randonnée demain, et puis que finalement, il y a un orage qui arrive, j'observe que la météo change, mon jugement va être, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire la randonnée à cet endroit, donc je vais décider d'aller faire à un autre. Donc moi, je fais une distinction finalement aujourd'hui entre le jugement et les préjugés, ce que je vous disais tout à l'heure. Le préjugé, c'est très différent, c'est-à-dire que là, c'est une interprétation sur un événement que l'on pose avant d'avoir les éléments nécessaires à prendre la décision. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, on ne se permet pas de prendre ce temps d'observation qui va permettre d'analyser et ensuite de prendre la décision. Donc c'est plutôt des préjugés pour moi qui sont ennuyeux dans notre travail. Mais voilà, faire un jugement à partir du moment où il est assorti d'observations justes, finalement c'est ce qu'on fait tout le temps.
C'est une petite différence de vocabulaire sur le mot jugement. Et c'est vrai qu'en CNV, lors de mes stages de CNV, ils utilisent la différence entre observation et jugement. Donc par exemple, observation, faut que je trouve un exemple, il est devenu rouge, il s'est mis à crier, il était tout rouge. Ça c'est une observation. Le micro peut enregistrer, la caméra peut filmer. En fait, même si on n'y est pas, quand on nous le répète, bah voilà, on peut imaginer, il est devenu tout rouge et il s'est mis à crier. Et le jugement, enfin, comme je l'ai appris en CNV, ça serait, il était en colère. Ben non, en fait, on ne sait pas s'il était en colère. Peut-être qu'il venait de courir très vite et que c'est pour ça qu'il était tout rouge. Ouais, vous voyez la différence, enfin, c'est ça que je mettais derrière le mot jugement.
Oui, alors pour moi, c'est plus une interprétation, mais vous avez raison, c'est certainement utilisé. Alors, ça dépend dans quel paradigme on se place, hein, probablement. Oui. Comme vous dites, dans la CNV, c'est peut-être le jargon qui est utilisé. Oui. Alors, c'est vrai qu'après, c'est effectivement l'interprétation pour moi. C'est-à-dire, voilà, faire une observation, c'est comme vous le disiez, c'est très juste, voilà. Il est tout rouge, ok. Mais ensuite, l'interprétation, c'est voilà, qu'est-ce que cela signifie, en fait. Et ce que vous voulez dire, c'est que finalement, on pourrait aller trop vite en se disant, il est en colère parce qu'on a vu qu'il est tout rouge.
Voilà.
C'est bien ça. Alors, c'est vrai que la terminologie, elle est importante, hein. Et parfois, c'est aussi de discriminer les actions ou discriminer les états des enfants. Voilà, il pleure. Est-ce que pleurer signifie forcément qu'on est triste?
Ben non, on peut pleurer de joie.
On peut pleurer de joie. On peut pleurer d'exaspération, on peut pleurer de colère, on peut pleurer de... Voilà. Et c'est vrai ce que vous dites. Et là, moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler plutôt d'interprétation.
Interprétation, voilà. Mais ce qui est important que nos auditeurs comprennent, c'est que ne pas aller trop vite dans l'interprétation et rester objectif dans la prise de notes, en fait, c'est ça.
Et c'est ça qui est très difficile, en fait, hein. Ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour cela que j'encourage la pratique, parce que dans le sens où la pratique, plus on va pratiquer, plus on va pouvoir se détacher de ces préjugés ou de ces interprétations hâtives. Parce que l'observation, c'est Marie Montessori, elle a observé le développement humain dans sa globalité. Donc, ça fait partie du travail qu'on se doit de faire à sa suite. Mais on est au balbutiement de ce qu'elle a pu, elle, découvrir, hein, dans nos pratiques. Après toute sa vie, elle a fait des découvertes incroyables. Et s'autoriser à observer, à pratiquer quotidiennement, va nous permettre de mieux en mieux de comprendre non seulement le développement humain, mais aussi chaque enfant. Puisqu'en fait, notre but, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque enfant, finalement, soit bien en lui-même, et qu'il puisse apprendre dans les meilleures conditions à son meilleur potentiel. C'est un peu c'est ce qu'on essaye de faire, n'est-ce pas? et d'atteindre la concentration et d'entrer dans le travail. Donc, Marie Montessori, elle nous dit qu'en fait, on ne peut pas agir de manière directe sur l'enfant. Donc, en l'observant, on va pouvoir savoir quels éléments de la périphérie on va pouvoir modifier, que ce soit notre posture, que ce soit l'environnement physique, l'environnement temporel, l'environnement émotionnel, tous les éléments qui vont pouvoir agir sur le comportement de l'enfant, de manière indirecte.
D'accord.
Vous voulez un exemple, je crois, aussi.
Oui, j'aimerais bien que, si vous pouviez si vous avez quelques lignes à nous proposer, quelques lignes qu'un éducateur aurait pu écrire en observant un enfant. Voilà, et puis j'avais trouvé ça, j'ai eu cette idée en préparant le podcast, comme ça si vous nous proposez une interprétation, un préjugé, ben les auditeurs pourront le trouver, essayer de voilà, est-ce que vous avez quelques lignes comme ça à nous proposer?
Alors, j'avais préparé quelque chose.
Comme ça, donc voilà, je précise. En fait, mon but, c'était que vous nous lisiez quelques lignes avec une interprétation, un préjugé qui s'était glissé. Donc voilà, les auditeurs peuvent mettre en pause pour chercher avant, parce que, évidemment, après, nous, on va rebondir et on va donner la réponse dans la foulée. Mais ils peuvent mettre en pause juste après pour prendre le temps de chercher.
Alors, je vous avoue que des exemples, j'en ai plein. Parce que forcément, j'en ai eu moi-même, hein, bien sûr. Et donc là, je suis allée rechercher dans ma mémoire un exemple, en espérant qu'il sera probant. Bien sûr, j'ai parlé d'un petit garçon, mais j'ai changé son prénom. Donc, Antoine est agité, il ne trouve pas de travail. Il est incapable de se concentrer, il dérange ses camarades. C'est un élément perturbateur. Il n'a pas de volonté de se mettre au travail.
Bon, je peux peut-être me prêter au jeu. On va inviter les auditeurs à mettre en pause, mais moi je peux me prêter au jeu. Bah, pour moi, toutes vos phrases étaient des interprétations. Hein? Je me trompe ou pas?
Alors, il y en a beaucoup.
Il y en avait beaucoup en tout cas.
L'ai fait exprès un petit peu. Hein,
Oui.
mais Antoine est agité. Après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous dire comment on m'a appelé pour observer cet enfant qui posait des difficultés, en fait, à l'adulte. Et donc, après, moi, j'ai observé pendant une matinée. Alors, je ne vais pas vous retracer tout ce que j'ai observé. Mais du coup, j'ai fait des petits points pour vous dire ce que j'observais de cet enfant. Et ensuite, du coup, faire l'analyse, en fait, par rapport à la première phrase, enfin, aux premières observations qui avaient été détectées, de comment, en fait, on a pu analyser à la suite ce que cet enfant faisait réellement. Je me lance, du coup.
Allez-y.
Donc, après une matinée d'observation, voilà ce que j'ai pu découvrir de l'enfant. Il tourne dans la classe, hein. Il interroge ses camarades pour savoir. Je peux venir te rejoindre? Tu veux bien faire une division à deux plateaux avec moi? Déçu, il décide de s'installer seul à une table. Sa table, parce que la maîtresse lui avait mis sa table. Et il se met à faire une division à un seul plateau. Puis, 5 minutes après, il se déplace à nouveau. Il va chercher une gomme. Il en profite pour demander à un autre camarade. Je peux venir te joindre? Tu veux bien faire une division à deux plateaux avec moi? Il revient tout seul à sa division, à sa table seule. Il se déplace quelques minutes plus tard à nouveau. Il va tailler son crayon. Il rencontre un autre camarade. Je peux venir te rejoindre? Tu veux bien faire une division à deux plateaux avec moi? Puis il revient seul à sa division, à un seul plateau. Et au moment du goûter, c'est l'heure du goûter, il va découper des fruits avec un camarade, c'était son tour de goûter, pour toute la classe. Il les installe joliment sur le plateau. Moi, j'étais épatée, hein. On aurait dit un goûter de restaurant gastronomique. Il reste concentré sur cette activité pendant 20 minutes. Il sourit, il chantonne, puis il prend son goûter. Enfin, il retourne à sa division. Voilà, ça c'est ce que j'ai observé sur une partie de la matinée. Donc vous voyez, par rapport à ce que la personne avait dit, je vous redis la phrase,
Oui,
puisque
ce
vous
serait
me dites.
intéressant que vous redisiez les deux phrases du début là pour qu'on fasse vraiment la comparaison.
Voilà. Antoine est agité. Il ne trouve pas de travail, il est incapable de se concentrer, il dérange ses camarades, c'est un élément perturbateur, il n'a pas de volonté de se mettre au travail. Donc quand j'ai donné mes observations, et je ne dis pas que mes observations, elles sont purement sans interprétation, hein, mais j'ai essayé de les faire les plus factuelles possibles à ce moment-là. L'analyse qu'on a ensuite discutée avec l'éducateur, c'est qu'en fait, Antoine, il est motivé par la division à deux chiffres diviseurs. Il veut absolument faire ça. Et Antoine, il cherche un camarade de travail et il ne le trouve pas. Et du coup, Antoine, il a besoin d'apprendre à réunir aussi tout ce dont il a besoin pour faire son travail en début d'activité, parce qu'en fait, il s'est déplacé beaucoup, mais c'est parce qu'il lui manquait un crayon, ensuite c'est parce qu'il a besoin d'une gomme, ensuite c'est parce qu'il a besoin de tailler son crayon, vous voyez. Donc là, peut-être qu'au niveau de l'éducateur, on a quelque chose à lui remontrer. Et ensuite, Antoine, il aime travailler au service de la communauté. Quand il a fait le goûter, là, il a été capable de se concentrer et de prendre plaisir à une activité impliquant des gestes concrets et avec un camarade. Vous voyez ? Donc la conclusion qu'on s'était donnée à ce moment-là, c'était, l'éducateur, il me l'a dit lui-même, il m'a dit, en fait, j'ai perçu qu'une partie d'Antoine. J'ai pas vu tout ça. Je le voyais bouger tout le temps, il dérangeait tout le monde, c'est vrai. Oui, il dérange tout le monde, mais en fait, est-ce que c'était déranger pour déranger ? Moi, j'étais tellement amusée, je vous avoue, quand il l'a entendu, parce qu'en fait, comme j'ai observé de manière formelle, vous voyez, j'ai entendu ce qu'il disait à ses camarades. Tu viens avec moi faire la division à deux plateaux.
Ouais. Puis, il l'a demandé à plusieurs enfants.
Il l'a demandé à plusieurs enfants. Vous voyez ? Et du coup, l'éducateur, il m'a dit, mais oui, c'est vrai que là, j'ai pas... En tout cas, il n'a pas observé ce moment-là en même temps que moi. Mais probablement que les autres moments d'Antoine étaient similaires. Et là, je lui ai dit, ouais, c'est vraiment riche hein, de s'asseoir pour observer. C'est tellement riche. J'aurais pas vu ça non plus, moi, si j'étais dans l'action, dans la classe, à faire autre chose. Donc, vous voyez à quel point ça peut être précieux.
Ouais.
Ça donne des indices, en tout cas. Et du coup, ça nous permet de faire un jugement ou une interprétation alimentée par des vrais éléments plutôt qu'un préjugé.
Bon, je crois que j'ai la réponse à la question suivante, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que pour vous, l'observation est un pilier de la pédagogie Montessori qui est aussi tout aussi important que la posture de l'adulte et l'environnement préparé ?
Alors, oui, je dirais, j'ai beaucoup réfléchi à cela parce qu'en fait, j'ai beaucoup lu là-dessus. Et Hila Patel, qui est une grande fervente de l'observation, elle dit que c'est la pierre angulaire, l'observation de la pédagogie Montessori. Et alors, moi j'utilise d'autres mots, mais je pense que ça signifie la même chose. C'est le fondement, à mon sens, c'est le fondement de la pratique, sans aucun doute. Et elle fait entièrement partie de la posture de l'adulte. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on commence par s'observer soi-même. On commence par se dire, voilà, qu'est-ce qui me mettrait en colère si un enfant venait me voir Par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y a une chose que je ne supporte pas, mais que beaucoup d'éducateurs pratiquent et ça ne les gêne pas, c'est quand l'enfant vient me mettre la main sur l'épaule pour me dire qu'il a besoin de moi. Je ne supporte pas ça. Je ne sais pas ce que ça me fait, mais ça me dérange. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne suis pas bien. Donc, à partir du moment où je sais ça de moi, dans la classe, j'ai mis une autre stratégie avec les enfants en place.
Laquelle ?
Alors, ce que je leur ai demandé, c'est de mettre un petit mot. Ceux qui savent écrire, en tout cas, ils peuvent m'écrire un petit mot. Et puis, ils mettent le petit mot à côté de moi. Et puis, ceux qui ne savent pas encore écrire leur prénom, on a des cartes avec les prénoms, vous savez, dans la classe, pour pouvoir réserver sa place ou des choses comme ça. Et bien, du coup, il vient mettre sa carte avec son prénom. Comme ça, il sait que moi, quand j'ai terminé, que je suis disponible, je vais venir vers lui. Mais je dis aux enfants, je suis vraiment désolée, mais je ne supporte pas. Alors, toutes les autres éducatrices, l'enfant, il reste là, avec la main sur les poings. Moi, je ne peux plus rien faire, en fait, quand on rentre en contact physique avec moi. C'est hors de mon contrôle.
Je ressens la même chose que vous. Alors, j'avais demandé le poignet. Comme ça, déjà, c'était un peu moins envahissant, le poignet. Mais je vais retenir votre technique.
Alors, il y a d'autres techniques qui sont très jolies. Hein. Il y a des éducatrices qui avaient, par exemple, une fleur dans la classe en bois, vous voyez, ou en plastique, ou je ne sais pas, enfin, on préfère le bois, monter seul. Et puis, elle mettait une petite pincette. L'enfant, il mettait une petite pincette avec son nom. Comme ça, c'était encore moins intrusif. Mais moi, si je fais ça, j'oublie. Vous voyez, donc il faut se connaître. Parce qu'en fait, j'arrive pas à aller penser s'il y a sur le tableau, si quelqu'un a mis sa pincette. Par contre, si l'enfant, il vient à côté de moi et il me le met, je suis sûre qu'après, je ne vais pas l'oublier. Donc, c'est vraiment se connaître, c'est super important.
Ouais.
Et le fondement, je dirais que s'il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de pédagogie Montessori, en fait.
Ouais.
Parce qu'on prétend toujours partir de l'enfant.
Oui, donc
si on ne parle pas de l'enfant, où est la pédagogie Montessori ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est sûr. Et pierre angulaire, c'est une expression que Angeline Stoll-Hillard a dû utiliser dans son livre, parce que pierre angulaire, ça me dit quelque chose.
Probablement ouais. Qu'elle l'utilise aussi. Et puis, c'est vrai que le fait de se mettre cela comme postulat, c'est... Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est simple, hein. Mais c'est certain que bah, peut-être que les premières années, même quand on est formé, si on n'arrive pas à observer, on a du mal à faire vraiment du Montessori parce que du coup, on arrive avec des idées qu'on apporte aux enfants. Et donc, il y a la technique. Souvent, les gens sont complètement obnubilés par le matériel Montessori qui est juste extraordinaire, scientifiquement pensé. Enfin, c'est génial et c'est magnifique. Mais en même temps, il n'y a pas que cela. Pour moi, c'est beaucoup plus important la relation que l'adulte va construire avec l'enfant dans sa posture et dans son observation. Parce qu'à la maison, bah, vous ne pouvez pas avoir tout le matériel Montessori. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mamans hein, qui veulent acheter une tour rose. Je dis, OK, bah, si ça vous fait plaisir, mais la tour rose sortie de son contexte, elle n'a plus aucun sens pour moi. Vous voyez? Parce qu'elle fait partie d'un ensemble de matériel et elle fait partie d'un contexte, d'un environnement qui fait que il va être utilisé par l'enfant à un certain moment. Et voilà. Donc pour moi, on peut faire du travail de la tour rose à la maison autrement, pas avec la tour rose.
Oui.
Voyez ce que je veux dire?
Oui. Et on va prendre quelques minutes pour parler de l'analyse, parce que toutes ces notes qu'on peut prendre lors des observations formelles, j'imagine que le but, c'est de les analyser, de s'en resservir et de rebondir avec toutes ces notes. Donc, est-ce que, au niveau, voilà, pratique, est-ce que vous utilisez des feuilles volantes, un classeur, un cahier, enfin, comment vous vous organisez au niveau pratique?
Alors, ma pratique, elle a évolué avec le temps et peut-être qu'elle évoluera encore. Donc, je peux vous parler de mon expérience, mais elle n'est en rien un modèle, c'est simplement un partage d'expérience. Et ça, c'est très important aussi parce que chacun, en fonction de sa personnalité, va trouver son chemin. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les formations que j'ai eues, nous avons eu des outils qui nous ont été proposés et on a eu beaucoup d'heures d'observation. Donc, ça, déjà, c'est super. Donc, on a des observations sur l'enfant, des observations sur soi. Comment je me suis conduite pendant une présentation, par exemple. Donc, au début, j'avais plein d'outils. Aussi une observation avec, vous savez, la grille des présentations à prévoir, à donner, avec quels enfants on peut estimer devoir recevoir telle ou telle présentation. Donc, j'avais des feuilles dans tous les sens, partout. C'était... Donc après le soir, il fallait que je synthétise tout ça. Enfin bon. Donc au fil du temps, je me suis concentrée sur trois outils. J'ai une grille avec le nom de tous les enfants de la classe, qui peut être recto verso en fonction du nombre d'enfants, parce que j'ai eu 30 et 35 enfants, sur laquelle je vais noter les présentations qui sont données par l'adulte dans une certaine couleur. Et puis d'une autre couleur, les activités spontanées de l'enfant, sur quoi elle travaille. Ça va me permettre, en fait, j'essaie de garder cette même feuille sur une semaine. Ce qui me permet, quand j'ai la charge de la classe complète, d'être sûre qu'à la fin de la semaine, j'ai vu chaque enfant tous les jours. Et que chaque enfant a reçu un minimum de présentations, puisqu'il doit recevoir sur 2 semaines, il doit recevoir à peu près des présentations dans tous les domaines. Donc ça me permet très facilement d'avoir, à mon sens, une vision globale de la semaine et de chaque enfant. Ça, pour moi, ça me suffit en fait de noter ça. Et ensuite, on a créé un petit code pour savoir si l'enfant il est concentré. Donc je mets un C. S'il est concentré, mais il peut se distraire facilement, je mets un C avec un D à côté. S'il ne travaille pas, je mets pas de travail, alors je le mets en anglais moi, mais NW, no work. Et au fur et à mesure, j'avance dans la journée. Puis si je vois plusieurs fois qu'il y a no work, no work, je vais faire en sorte de m'approcher de lui, vous voyez, de voir pourquoi no work. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, l'outil que j'ai, c'est mon outil des prévisions de présentation qui, pour la semaine à peu près, la semaine, 2 semaines, tout dépend. Dès que j'ai eu une grande classe, j'ai développé un outil informatique pour m'aider parce que c'est compliqué. Et ça me permet d'avoir ma liste par domaine et par présentation des enfants qui peuvent potentiellement recevoir cette présentation. Et ensuite, ça me permet de cocher ceux qui l'ont reçu et de remettre à jour. Donc ça, c'est mon deuxième outil. Et mon troisième outil, parce que je travaille en classe 6-12 ans, c'est le registre individuel de l'enfant qui va me soutenir dans des conférences individuelles qu'on fait avec l'enfant que j'ai appris à faire lors de mes stages quand je suis allée dans l'école de Donna Gertz à Austin.
Ah, vous y êtes allée?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir vraiment fait mes stages de pratique là-bas. Et du coup, c'est vraiment l'interaction avec chaque enfant et qui, là, nous permet de discuter avec lui. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Une des phrases que j'adore, c'est je vois que Cyril, c'est ton grand copain. Hein. Ah ouais, c'est mon grand copain. J'ai dit, mais est-ce que c'est un copain de travail ou c'est un copain de récréation, tu penses? Parce que, ouais. En fait, quand vous posez des questions comme ça aux enfants, vous vous rendez compte qu'ils se connaissent très très bien. Et souvent, quand vous avez vu des enfants qui finissent par jouer, j'ai eu des enfants des fois qui m'ont mélangé les chaînes. Au départ, ils avaient un super travail, ils comparaient la chaîne de 8 à la chaîne de 9 pour faire les multiples, et puis à la fin, c'était tout mélangé. Et je leur ai dit là, peut-être que c'est pas le bonjour, hein. Mais je les ai interrogés chacun mutuellement suite au bazar qu'ils avaient mis. Ils m'ont dit, ouais, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas des copains de travail, on est vraiment des copains de récréation.
J'aime bien cette distinction.
Et puis une autre une fois aussi, on avait une petite fille qui était extrêmement anxieuse, extrêmement stressée. Et en fait, à chaque fois qu'on l'invitait à une présentation, parce qu'évidemment, parfois, on est invité à faire une présentation dans la matinée, et même si on essaie de respecter au maximum la concentration des enfants, il y a des moments où on doit aussi se lancer. Et elle était dans un état d'angoisse pas possible. Donc, j'en profite pour faire une petite conférence avec elle. Et puis, elle me dit que c'était vraiment insupportable pour elle, en fait, d'être interrompue dans son travail. Et donc là, du coup, parce que je lui dis, mais est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Elle me dit, ben oui, tu pourrais m'inviter à faire mes présentations dès le matin quand j'arrive. Ou le début de l'après-midi, mais pas au milieu, parce qu'au milieu, je suis déjà dans mon travail et j'arrive vraiment pas à sortir de mon travail. Et du coup, voyez, l'idée, elle est venue d'elle.
Ben oui.
J'ai trouvé que c'était magnifique et je me dis, mais à quel point les enfants se connaissent, c'est impressionnant. Et moi, je n'aurais pas pensé spontanément à cela. Alors aujourd'hui, quand j'ai des éducateurs que j'accompagne, je leur fais ces suggestions. Voilà, si tu as un enfant que ça angoisse, si je retrouve ce schéma, je peux faire cette proposition. Et c'est impressionnant comme les conférences, donc c'était pour revenir aux trois outils que j'utilise. Hein. La conférence, et plus vous les faites régulièrement, plus vous comprenez l'enfant et mieux vous arrivez aussi à comprendre s'il est dans sa zone de confort ou quel est le défi que, prochain auquel vous devez l'accompagner. Parce que être toujours dans sa zone de confort, ça n'apporte pas de satisfaction personnelle. Donc, plus on va avoir ces conversations et ces observations, plus on va pouvoir apporter à l'enfant juste, vous savez, le petit déclic qui va faire qu'il va avoir du plaisir, en fait. Parce que dans la vie, quand on a tout facilement, finalement, on n'a plus de plaisir, puis on se dévalorise. Alors que quand on doit faire des efforts et qu'on est challengé, et qu'on a du défi, c'est là qu'on est stimulé, qu'on est motivé et qu'on grandit.
Et j'aimerais vous poser une dernière question sur ces observations. Ouais, donc si j'ai bien compris, elle guide votre travail après pour prévoir les présentations aussi, pour connaître l'enfant en fait, pour savoir de quoi il a besoin et savoir quel matériel lui présenter et comment, c'est ça?
Alors tout à fait, il y a deux axes, hein. Il y a l'axe pédagogique, c'est-à-dire quelle présentation on va pouvoir lui donner à la suite en fonction de son intérêt, de sa motivation et puis de ses habiletés, hein, parce qu'il peut très bien avoir envie de faire quelque chose mais ne pas être là. Par exemple, parce que comme dans nos classes, on a des enfants de 6-12 ans. Donc, parfois, un enfant de 7 ans, il a très envie de faire une activité qu'un enfant plus âgé ou plus avancé fait. Et là, ça va nous permettre de lui dire, j'aimerais vraiment présenter ça. Alors, si tu veux, on peut essayer. Des fois, je le fais suivant les enfants, parce que tant qu'ils n'ont pas essayé eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Mais par exemple, s'il me dit « Ah ouais, c'est vraiment trop difficile », je lui dis « Écoute, c'est pas grave, mais tu sais, regarde, tu as telle et telle étape à franchir avant d'arriver là. » Vous voyez ? Donc, c'est vraiment à la fois pédagogique, mais c'est aussi à la fois dans son développement. Parce que si on veut, par exemple, faire de la couture, je vais prendre un exemple, faire de la couture de dentelière. Vous voyez, avec vraiment coudre avec un fil, une aiguille fine, etc., etc. Mais il faut avoir d'abord commencé à utiliser une aiguille plus grossière avec un fil un peu plus gros. pour apprendre le geste, la précision. Et voilà, donc dans le matériel Montessori, il y a beaucoup de séquences. Donc il y a des étapes qu'on peut franchir sans les avoir vues parce que certains enfants n'en ont pas besoin. Mmh. Et ça, c'est nos observations qui vont nous dire, tiens, c'est quand même bizarre, il sait déjà tout. Alors ça, c'est aussi quelque chose, ça fait partie du développement. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, les outils, ils servent à la fois sur le plan pédagogique, mais aussi sur le développement de l'enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a trois types d'apprenants, je ne sais plus d'où est ma source, j'en suis désolée, mais il y a des enfants qui sont des observateurs, il y a des enfants qui sont des faiseurs, alors ça vient de l'anglais, hein, c'est doers, observers and givers. Donc le troisième type, c'est ceux qui vont apprendre en redonnant, mmh. en expliquant à l'autre. Et ça m'est arrivé de temps en temps, justement, de voir des enfants qui erraient dans la classe. Vous savez, celui qui erre et puis qui ne fait rien. Puis en fait, c'est un observateur. Et au moment où je l'invite à la présentation, en fait, il sait déjà tout. Je me dis, mais comment tu sais déjà tout tu... Mmh. Moi, je ne savais pas tout ça avant d'aller en formation Montessori. Mais comment ça se fait que tu sais? Il dit, ah, mais j'ai vu Alex la dernière fois, il a fait, puis j'ai compris, mmh. vous voyez
ouais.
Donc, c'est une perte de temps de lui remontrer, finalement.
Bah oui.
Donc, c'est une constante adaptation à l'enfant. Mmh. Donc, c'est vraiment savoir comment son cerveau se développe aussi et comment il fonctionne lui-même, en fait. Et ça, c'est passionnant aussi d'expliquer aux enfants comment leur cerveau fonctionne. Est-ce qu'ils ont une manière de fonctionner linéaire? Est-ce qu'ils ont une manière de fonctionner en carte mentale? Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'en fait, je fonctionne complètement en carte mentale et que je vais beaucoup plus vite quand j'ai des images que quand je lis des textes linéaires. Et en fait, je montre ça aux enfants parce qu'il y en a à qui ça parle beaucoup plus, donc leur permettre d'avoir ces différentes connaissances sur le cerveau, avec les neurosciences maintenant qui ont des découvertes extraordinaires. Hein. J'ai écouté plusieurs de vos podcasts sur les fonctions exécutives parce que c'est un domaine qui me passionne. Et ça nous aide nous aussi en tant qu'enseignants de connaître ce développement du cerveau de l'enfant.
Et j'aimerais, est-ce que vous auriez une citation à partager, une citation de Maria Montessori sur l'observation?
Alors, j'en ai choisi une, je vous avoue que c'est pas facile.
Hein. Oui.
Mais ça correspond un peu à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Elle dit, une enseignante ordinaire ne peut être transformée en enseignante Montessori. Mais elle doit se recréer en se débarrassant des préjugés pédagogiques. Hmm.
Très, ouais, très jolie. Et ben, on va terminer du coup notre échange avec la citation, c'est fait. Le livre, est-ce que vous auriez un livre à recommander aux auditeurs pour approfondir le sujet d'observation?
Oui, il y a un livre qui est devenu mon livre de chevet depuis des années, c'est celui de Donna Brian-Gertz.
Quand l'école s'adapte aux enfants?
Quand l'école s'adapte aux enfants.
C'est le tout premier que j'ai lu. C'est le tout premier livre que j'ai lu. Avant de lire le livre de Maria Montessori, c'était le tout premier. Et là, je l'ai conseillé à une enseignante hier, avant-hier, en formation. Voilà, une enseignante qui, justement, avait beaucoup de préjugés, d'interprétations sur le comportement d'un enfant. Et du coup, pour lui redonner, pour l'aider à reprendre confiance en cet enfant, je lui ai conseillé cette lecture.
Oui, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai la chance de connaître Donna Brian-Gertz, qui est devenue une de mes mentors, puisque j'ai fait mon stage là-bas. Donc depuis, quand j'ai des questionnements ou des choses comme ça, je lui demande. Mais elle est d'une humanité et d'une sensibilité qui se retrouve dans chaque ligne de son livre, en fait. Mm. Moi, ça m'a vraiment touchée, cet ouvrage, parce qu'en fait... Elle accueille chaque année depuis... Bon, elle a eu 30 années d'expérience en classe, 6-9 ans. Hein, et chaque année, elle a accueilli des enfants en difficulté. Et c'est vraiment... Elle nous explique comment accueillir l'enfant dans sa singularité, dans sa personnalité profonde. Comment se mettre à sa portée par l'observation, mais aussi comment l'inclure dans cette communauté. Et comment faire en sorte que les autres soient un soutien et non... un obstacle ou une peur supplémentaire. Et je trouve que c'est vraiment c'est ma référence quotidienne. Et quand quand j'accompagne des éducateurs, régulièrement, je choisis un des chapitres à leur faire lire. Parce qu'il y a évidemment des enfants qui se retrouvent, qui ont des profils qui ressemblent à ceux qu'elle a choisis. Donc, et du coup, ils disent « Ah oui, ah oui, ah oui, là tu me parles de Sébastien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Sébastien ?»
Et Sabine, on va terminer avec soit un coup de cœur, soit un coup de gueule que vous aimeriez partager. Alors, je m'étais dit peut-être un coup de cœur sur justement une observation, quelque chose que vous auriez observé.
Alors moi, j'ai choisi en fait un coup de cœur. J'ai un amour profond pour les enfants qu'on dit en besoin spécifique. Et j'ai reçu depuis mes années d'expérience en classe, même si ma période Montessori purement professionnelle est finalement pas très longue, elle a été très très intense. il me touche particulièrement ces enfants parce qu'en fait il m'oblige à aller au plus profond de moi-même pour trouver des solutions, et c'est vraiment eux qui m'ont remis le plus en question. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'adultes, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec ces préjugés, ces a priori sur les enfants, dès qu'ils sont face à une difficulté avec un enfant, il y a une accélération de vouloir mettre une étiquette sur un enfant. C'est-à-dire que voilà, cet enfant, il n'arrive pas à se concentrer. Oh, il doit être TDAH. Oh, il doit être ci. Oh, il doit être 10. Oh, il doit être là. Stop. Observons-le. Et ce que j'aime beaucoup dans le livre de Donna Gard, c'est que justement, elle accueille des enfants en disant, il vient dans ma classe seulement sans médicaments. Et en fait, l'environnement Montessori, pour ces enfants en besoin spécifique, dit en besoin spécifique, la plupart du temps, c'est un laboratoire de guérison. J'ai vu plein d'enfants arriver avec de la médication, des troubles, etc., qui au bout d'une année, même parfois au bout de quelques semaines, hein, mais c'est assez rare, mais au bout d'une année, deux années, leurs troubles ont disparu, ils n'ont plus besoin de médication. Alors, malheureusement, les parents, dans ces cas-là, dans certains cas, ils retirent leur enfant en disant « ça y est, tout va bien, on s'en va ». Bon, c'est dommage, mais nous, on a participé à quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis vraiment touchée par ces besoins. Et moi, je suis vraiment... Voilà, le coup de cœur, c'est vraiment aussi sur ces environnements Montessori qui sont capables, quand ils sont bien mis en œuvre, de pouvoir guérir. Marie Montessori utilise le mot « normaliser », mais c'est un mot qui est un petit peu difficile à expliquer. Mais c'est vraiment remettre l'enfant sur son chemin de développement naturel, en fait.
Un immense merci, Sabine, parce que voilà, c'était un podcast d'une extrême richesse et que j'aurais plaisir à réécouter, moi, dans un deuxième temps. Et je pense que les auditeurs vont se régaler avec tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup de votre invitation et j'espère effectivement que ça peut aider, en tout cas, les auditeurs à se plonger. Ne restez pas sur le bord de plongeoir.
Merci. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !